grands titres de ce dimanche. La Corée du Nord avec la tentative de Washington d'ouvrir, je cite, des lignes de communication avec ce pays. L'Espagne va tenter d'empêcher le référendum en Catalogne ce dimanche. En Australie, la grande finale de l'AFL remportée par Richmond contre Adelaide hier. Et ce soir, la grande finale de la NRL, la ligue de rugby entre Melbourne Storm et les North Queensland Cowboys. La ministre australienne des Affaires étrangères, Julie Bishop, pense que la Chine s'est impliquée davantage dans la crise de la péninsule coréenne en essayant de jouer un rôle de médiateur. Julie Bishop est sur le programme Insiders de l'ABC de ce dimanche.
I actually believe that the Chinese recalculated their risk when President Trump upped the ante in terms of the rhetoric and what he said the United States would do. And then instead of it just being, as China had said in the past, a Washington-Pyongyang issue, China now sees that it must play a role.
Julie Bishop, le porte-parole de l'opposition fédérale sur les questions de défense, Richard Marles, déclare que les sanctions sont les meilleurs moyens d'arrêter un conflit militaire avec la Corée du Nord.
Therein lies the issue and the ongoing work that sanctions needs to play. I think there is still a fair way to go in terms of trying to shape North Korea's behaviour in the way in which we would want to do that. But it really is important that we are pursuing every peaceful means possible to do that, because to go down any other road, and particularly a military road, would see a conflict unlike any that we've seen during most people's lifetime.
Voilà, c'était Richard Marles, le porte-parole de l'opposition. Rex Tillerson, le secrétaire d'État américain, est en Chine pour préparer la visite de Donald Trump en novembre prochain. On l'écoute.
This is a relationship that continues to grow and mature on the strength of the relationship between yourself and President Trump. President Trump is looking forward with great anticipation to the summit here in Beijing, as is the First Lady Melania Trump.
Voilà, c'était le secrétaire d'État américain qui est en Chine. L'ancien ministre australien des Affaires étrangères, Bob Carr, a déclaré sur Sky News ce matin que l'Australie a été lente à vouloir s'engager sur la politique étrangère avec les pays asiatiques. Ces pays, selon lui, voient la Chine comme plus importante dans la région que les États-Unis.
They're making a decision that the US has less interest in Southeast Asia than it had in the first term of the Obama administration. And this is an opportunity for Australia to do what Gareth Evans said is the challenge for us, more Asia in our foreign policy, not just China, but Southeast Asia as well. This is Australia's market, Australia's area of influence, and the Bowen speech, and to be fair, comments by this government are pointing in the right direction. It strikes me that the nation is a little slow to move.
Bob Carr, l'ancien ministre australien des Affaires étrangères. En Catalogne, c'est ce dimanche le vote du référendum d'indépendance. Le scrutin est interdit par la justice centrale. Précision et reportage de Béatrice Leveillé pour Radio France Internationale.
Les sites internet indépendantistes sont fermés les uns après les autres. L'information circule difficilement et nombreux seront les 5 400 000 électeurs catalans appelés à participer aux urnes qui ne sauront ni où ni comment aller voter. Le gouvernement catalan, qui poursuit son bras de fer avec le gouvernement espagnol en maintenant son appel au vote, affirme qu'il existe des alternatives aux bureaux de vote qui ferment également les uns après les autres. Il demande aux électeurs de se rendre aux urnes pacifiquement et sans signe particulier. 1300 potentiels bureaux de vote ont été mis sous scellé. Il ne reste plus, selon la police catalane, que 163 collèges ou écoles occupées et les occupants ont ordre de libérer les lieux avant 6 heures du matin. L'ambiance est à l'état de siège du côté indépendantiste. Les voisins et parents qui occupent le collège de Raval où nous étions ce matin appellent à un rassemblement à 5 heures du matin. La nuit sera courte et angoissante. La police nationale, la Guardia Civile, se déplace désormais à bord de véhicules anti-émeutes dans la capitale catalane. Le risque d'incident est élevé et chacun se renvoie à la responsabilité des heurts qui pourraient se produire.
Béatrice Leveillé pour RFI. En France, le match de Ligue 1 Amiens-Lille, marqué par la chute d'une barrière en tribune hier samedi soir. Plusieurs personnes blessées et des blessés graves également. La rencontre a été reportée. Une enquête est en cours. La Turquie promet de durcir le ton contre le Kurdistan irakien après le référendum pour l'indépendance et la victoire du oui lundi dernier. Le président turc Recep Tayyip Erdogan continue donc de hausser le ton contre le Kurdistan d'Irak. Reportage depuis Istanbul de Anne Andlauer pour RFI.
À défaut d'avoir déjà mis en pratique les menaces de sanctions agitées toute la semaine, Recep Tayyip Erdogan continue de hausser le ton contre le Kurdistan d'Irak. Le président turc promet de frapper Erbil au porte-monnaie en fermant la frontière et les vannes qui lui permettent d'exporter son pétrole via le territoire turc. Recep Tayyip Erdogan estime avoir été trompé par Massoud Barzani, le président de la région kurde irakienne, qui l'avait soutenu face à Bagdad en lui accordant, selon lui, des crédits de plus d'un milliard de dollars et en le recevant avec les honneurs dans son palais Ankara. D'où ce discours très dur du chef de l'État turc.
Nous ne regrettons pas ce que nous avons fait pour eux par le passé. Mais puisque les conditions ont changé, puisque le gouvernement régional d'Irak du Nord, que nous avons toujours soutenu, a pris cette initiative en dépit de l'avis de notre pays, alors il en paiera le prix.
Le scrutin sur l'indépendance organisé lundi dernier ne fait que rouvrir une plaie dans la région, a poursuivi le président turc, qui avait déjà évoqué le risque d'une guerre ethnique et confessionnelle. Recep Tayyip Erdogan a laissé entendre que son pays n'hésiterait pas à intervenir militairement chez son voisin, notamment pour défendre les Turkmènes de Kirkouk, cette province incluse dans le référendum située hors du Kurdistan, mais abandonnée aux Kurdes en 2014 lors de l'offensive de Daesh.
En Irlande, des dizaines de milliers de manifestants dans les rues hier pour réclamer un droit à l'avortement. Un référendum devrait être organisé en mars prochain. Les précisions de Julien Lagache pour RFI.
Une ambiance détendue sous un ciel bleu et un grand soleil. Beaucoup de jeunes dans cette foule dense, mais toutes les générations étaient représentées sous des pancartes et des banderoles multicolores ainsi qu'une multitude de slogans. Notre corps, notre choix a notamment scandé la foule pour réclamer un droit total et inconditionnel à l'avortement, alors qu'il n'est aujourd'hui permis qu'en cas de menace mortelle pour la mère durant la grossesse. Dans le cortège, de nombreuses personnes ont dénoncé une influence encore trop grande de l'Église catholique sur les mœurs et la société, mais on entendait aussi une certaine méfiance vis-à-vis des élus. Ce sont eux qui décideront les termes de la question qui sera posée aux Irlandais dans 9 mois. Or, les parlementaires à s'afficher dans la manifestation ne sont pas légion. Les militants pro-IVG craignent donc une réforme à minima, même s'ils restent optimistes avec la tenue de ce référendum. Ils estiment une victoire possible, mais ils promettent déjà de redescendre dans la rue l'année prochaine s'ils jugent que les progrès sont encore trop timides.
Julien Lagache pour RFI. En RDC, République démocratique du Congo, un avion de transport militaire de fabrication russe de l'armée congolaise s'est écrasé hier samedi à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Kinshasa. Au moins 12 personnes mortes selon le ministère congolais de la Défense. Reportage Léa Lisa Vesteroff pour RFI.
Une épaisse fumée noire, visible à des kilomètres, a pollué le ciel de Kinshasa jusqu'en milieu d'après-midi, hier. Interdiction d'approcher, la zone de l'accident à 20 km au nord-ouest de la capitale a rapidement été bouclée par la garde républicaine, inaccessible même aux journalistes. Seuls les énormes débris en feu de l'Antonov 12 étaient visibles au milieu des hautes herbes des champs de Nselé. Aucun passager n'a survécu à l'accident, les membres de l'équipage, mais aussi des passagers clandestins, des civils, membres des familles des militaires qui avaient voulu profiter du trajet à destination de Bukavu dans l'est du pays. Chargé de 2 véhicules mais aussi de plusieurs tonnes de munitions et d'explosifs, le transporteur de l'armée congolaise s'est écrasé quelques minutes à peine après avoir décollé. L'armée s'est refusée hier à fournir une explication de l'accident, mais selon un officier de l'armée joint par RFI, l'appareil n'était pas en bon état et il aurait pris feu en l'air juste après le décollage. La cargaison était selon plusieurs sources destinée aux troupes de l'armée congolaise stationnées à Uvira dans le sud Kivu. Depuis plusieurs jours, les forces régulières y sont engagées dans des combats contre une coalition de groupes armés qui dit vouloir en découdre avec le régime de Kinshasa.
En Australie, avec ce 1er octobre, la date butoir pour les réfugiés arrivés en bateau entre 2012 et 2014 pour demander de rester en Australie, sinon ils devront quitter le pays. 6000 réfugiés en ont déjà fait la demande depuis mai dernier. 600 autres n'avaient toujours pas fait la demande il y a quelques jours. Le ministre de l'immigration, Peter Dutton, déclare que ceux qui ne font pas la demande indiquent qu'ils n'ont pas l'intention de vouloir rester ici. Le Victoria, la Nouvelle-Galles du Sud, l'Australie méridionale et la Tasmanie sont passés à l'heure d'été depuis ce matin, ce qui veut dire qu'il faut pousser les montres d'une heure et aussi perdre une heure de sommeil. Le Queensland, l'Australie occidentale et le territoire du Nord ne passent pas à l'heure d'été. À Paris, c'est la journée sans voiture. Ce dimanche, toute la capitale sera interdite aux automobilistes et aux personnes qui utilisent des motos ou des scooters. Précision de Aram Beng pour RFI.
À l'occasion de cette journée sans voiture, parisiens, franciliens ou touristes peuvent investir la chaussée à pied, à vélo, en trottinette ou en monoroue. Tout mode de déplacement doux est accepté et cette parisienne de 60 ans en promenade sur les quais de Seine approuve l'initiative de la municipalité.
Paris, c'est une merveille sans voiture. Il serait souhaitable que l'on arrive de plus en plus, pour notre santé à tous et nos enfants, à éviter tous ces pots d'échappement qui polluent.
Pour ce groupe de jeunes amis à vélo, la capitale offre des possibilités de déplacement sans la voiture.
Les transports en commun sont déjà une très belle alternative.
Ou prendre le vélo, ça permet de faire du sport au lieu de polluer justement.
Mais pour Pierre Chasseret de l'association 40 millions d'automobilistes, le vélo n'est pas adapté à tout le monde.
On a l'impression qu'on bosse plus à Paris. Maintenant, Paris, c'est la ville pour faire du vélo. Les moyens de transport doux, pourquoi pas, c'est bien, tant mieux, c'est bien qu'il y ait des gens qui fassent du vélo aussi, on en a un à côté de nous là. On en voit encore un à côté là-bas. Il n'a pas une mallette, il n'est pas en costard-cravate, hein, donc c'est pas adapté à tout le monde.
Malgré la résistance des automobilistes, la mairie de Paris a lancé son plan vélo qui vise à doubler d'ici 2020 les 700 km de pistes cyclables dans la capitale.
Aram Beng pour RFI. Coup d'œil météo pour ce dimanche en Australie. Perth maximal de 25 degrés, Adélaïde 17 degrés, Melbourne 16, Hobart 17, Canberra 20, Sydney 23, Brisbane 22, Cairns 31, Darwin 33 et à Alice Springs maximal de 23 degrés. Un rappel des grands titres de ce dimanche 1er octobre, la Corée du Nord avec la tentative de Washington d'ouvrir, je cite, des lignes de communication avec ce pays. L'Espagne va tenter d'empêcher le référendum en Catalogne ce dimanche. En Australie, la grande finale de l'AFL remportée par Richmond contre Adelaide hier. Fin du journal, merci à vous d'être avec nous.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench